Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Depuis des semaines, en compagnie de la fréquence de la paix Radio Capi qui vous propose ces nouveaux numéros des paroles aux auditeurs. La République démocratique du Congo célèbre ce 30 juin 2021, le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance. Et à cette période, le pays connaissait une stabilité économique et était au premier rang des exportateurs de certains produits. 61 ans après, l'économie du pays est essentiellement basée sur des importations et son budget financé à près de 50% par des aides extérieures. 61 ans après, que doit faire la RDC pour gagner son indépendance économique? C'est la question au centre de nos échanges. 081 890 49 69, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Sylvain Matundu est à la mise en onde de ce magazine réalisé par Jocelyne Mukendi. Quant à moi, Piero et la Meji, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Fidèles auditeurs, bienvenue à toutes et à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Piero et la Meji.
Bienvenue à cette série d'émissions Parole aux auditeurs consacrée à l'indépendance de la RDC. Nous abordons plusieurs questions sur les droits de la femme, sur les progrès de la santé, les progrès de la politique. Et en ce moment, nous abordons la question du progrès sur les plans économiques 61 ans après. On se rend compte que l'économie de la RDC est basée sur des importations, mais aussi son budget est financé aussi par des aides extérieures. Et la question au centre de nos autre échange aujourd'hui, c'est comment la RDC peut-elle gagner son indépendance économique? Et pour en parler, vous êtes nombreux d'ailleurs sur notre standard. Et nous avons aussi en ligne associé Monsieur Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce extérieur. Monsieur Jean-Lucien Boussa, bonjour.
Bonjour.
Et merci encore. C'est un plaisir qu'on se retrouve autour de la question économique. 61 ans après, qu'est-ce que vous pensez de ce que nous avons fait comme progrès majeur sur la question de l'économie de notre pays, en grande ligne?
Voilà donc la question fondamentale, celle de savoir comment la RDC peut-elle gagner son indépendance économique, est une question essentielle, je reviens là-dessus. Parce que nous avons été, nous sommes devenus indépendants politiquement, mais à mon sens, l'indépendance économique tarde encore à venir. Deux choses, nous sommes une économie extravertie, donc totalement dépendant de l'extérieur. En ce qui concerne la consommation intérieure, le plus gros du complément de l'offre intérieure provient des importations. Premier élément. En termes simples, c'est-à-dire que les Congolais consomment plus que ce qu'ils achètent, ce qu'ils ne produisent pas et qui vient de l'étranger. Deuxième élément, ce que nous continuons à exporter des matières premières au lieu de les transformer sur place. Ça veut dire que nous ne créons pas de la valeur ajoutée, nous ne créons pas de la valeur ajoutée pour notre économie. Et donc, ces deux éléments montrent que notre économie est totalement, je dis quasi totalement dépendante de l'extérieur. Mais quand tu analyses plus loin la situation, tu vas te rendre compte que les investisseurs, sinon les opérateurs économiques qui ont le contrôle à la fois du pan économique, ça veut dire le pan importation, aussi bien que l'autre pan économique, ça veut dire les exportations, donc la production intérieure, sont des capitaux pour la plupart étrangers. Et donc aujourd'hui, malheureusement, il faut le dire, le contrôle de l'économie congolaise n'est pas tenu à plus de 20% par les Congolais. Et donc, ce sont des défis majeurs que nous devons relever aujourd'hui, 61 ans après.
Alors, mais où a été notre faiblesse pour qu'on en arrive à cette situation? Quelle a été vraiment notre faiblesse?
Alors, je voudrais quand même, très rapidement, comme il s'agit quand même de 61 ans, indiquer quand même quelques éléments par rapport à ce que je viens de dire tout à l'heure. Un, la taille de notre économie s'est rétrécie. Entre 60 et 2021, la taille de l'économie congolaise s'est rétrécie. Ça veut dire que là où on produisait une gamme variée de produits, le nombre de produits déjà a diminué. Donc la gamme de produits a diminué, d'où l'appel incessant des citoyens pour la diversification de notre économie. Donc la taille économique de l'économie a été réduite entre 60 et aujourd'hui. Deuxième élément, alors que la poussée démographique est forte. Nous sommes partis d'une population estimée à 16 millions d'habitants à une population aujourd'hui estimée à 100 millions d'habitants. Troisième élément que je peux indiquer, j'ai parlé de l'extraversion de l'économie, j'ai parlé donc de la dépendance de cette économie-là, et donc par conséquent, c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons alors des gros défis à relever. Alors vous dites, mais quels sont les facteurs qui ont justifié cela? C'est ça la question.
Exactement.
On peut épingler, à mon avis, à mon sens, mais sans être exhaustif, 7 facteurs. Le premier facteur est le plus important. C'est l'absence, sinon le déficit des politiques économiques ambitieuses et adéquates. Ça, c'est le premier. On n'a pas mis en œuvre, sinon on n'a pas conçu et mis en œuvre des politiques économiques basées sur l'idée d'un pays à pouvoir s'autonomiser et à devenir une puissance. Donc l'absence des politiques est une question majeure. Deuxième élément, ce sont les mauvaises décisions économiques qui ont été prises à un moment donné dans le pays. Vers les années 74, lorsqu'il y a eu ce mouvement des nationalisations en Afrique après les indépendances, chez nous, la décision que le président Mobutu avait prise à l'époque, celle de la zaïrianisation, ça veut dire prendre des entités de production agricoles ou industrielles appartenant aux étrangers, le remettre entre les mains des Congolais sans expérience, sans expertise et sans vision. Ce qui a détruit le gros de notre économie. Troisième élément, les pillages des tristes mémoires. Les années 91, 92, 93 ont vu l'économie congolaise être pillée par ses propres citoyens. Conséquence d'un certain nombre de crises sociopolitiques. Et ça, ceci a laminé notre économie et l'a mise à plat, tout simplement. Quatrième élément, les guerres successives que nous avons connues. Rébellion, libération, etc. Ces guerres ont détruit l'économie, le tissu économique du pays. Cinquième élément, en plus de tout ce que j'ai indiqué comme facteur, vous avez la mauvaise gouvernance qui a été érigée en système de gouvernement et qui n'a pas permis au pays d'avancer. Sixième élément, le climat des affaires n'est pas propice au développement économique. Nous sommes classés parmi les derniers pays en termes de critères doing business. Et septième élément, je termine par là, nous n'avons pas une fiscalité attractive. Nous n'avons pas créé les conditions d'incitation aux investissements. Nous n'avons pas pu avoir des politiques de subvention dans le secteur clé de l'économie. Voilà en gros les éléments qui font que notre économie s'est déclinée. Et il est passé d'une économie qui était assez forte vers les années 60-70 à une économie qui est classée parmi les dernières en Afrique.
Alors, quand on regarde ce tableau, c'est cet élément que vous avez relevé. C'est revenu dans plusieurs débats, dans plusieurs forums. On se rappelle même du temps de la conférence nationale souveraine. On est revenu sur ce genre de questions. Après, il y a eu les dialogues des Sand City. Il y a eu autant de conclaves, autant de débats qui tournent toujours autour de mêmes problèmes, mêmes questions. Mais on se rend compte qu'on n'a pas des mesures efficaces qui sont prises. Alors, où se trouve notre faiblesse? Pourquoi on n'arrive pas à concilier ces diagnostics avec des décisions qui doivent être prises pour effectivement sortir notre économie de cette situation, quand bien même on relève cela régulièrement depuis plusieurs décennies?
Mais la première question qui doit être, à laquelle on doit répondre, on devait répondre, elle commence à trouver sa réponse, c'est le problème de la vision politique du leadership au pouvoir et de sa détermination à placer l'économie congolaise au cœur de l'action politique. Ça, c'est la première chose. Une économie au service des citoyens. Ça n'a pas été porté comme vision par les dirigeants successifs qui ont passé leur temps à travailler pour conserver les pouvoirs politiques en mettant un accent particulier sur les questions politiques, sécurité, etc., en oubliant totalement l'économie. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est des politiques économiques. J'ai dit tout à l'heure, ambitieux adéquate qu'il faut effectivement mettre en œuvre. Mmh. On peut définir des politiques, on peut faire une litanie de politiques, mais lorsqu'elles ne sont pas ambitieuses, elles ne sont pas cohérentes, elles ne sont pas adéquates, mais en même temps, qu'elles ne sont pas mises en œuvre en tenant compte des problèmes fondamentaux essentiels des citoyens, on va gérer au jour le jour, on ne va pas gérer les questions essentielles du pays. On s'occupe de gérer la conjoncture et non des questions structurelles. Ceci a fait défaut. Et donc, le troisième élément, que je considère très important, c'est la qualité de la gouvernance. Mais la qualité de la gouvernance découle de la qualité des institutions. Aujourd'hui, la qualité des institutions qui incorpore la qualité de la gouvernance, la lutte contre la corruption et qu'est-ce que vous voulez encore, apparaît comme un facteur déterminant de croissance économique et de développement. Mmh. Il s'appelle aujourd'hui par les théoriciens capital intangible. Un pays qui a de bonnes institutions, pour dire des institutions efficaces, un pays qui garantit qui assure la bonne gouvernance, etc. Ces pays-là, même dotés faiblement en ressources naturelles, se développent plus que le pays qui est doté comme la RDC, de ressources naturelles immenses, mais dont la qualité des institutions et la gouvernance est mauvaise, parce que cette dernière affecte négativement la croissance économique. C'est le cas de la République démocratique du Congo. La différence entre la RDC et la Suisse, par exemple, est que la RDC a tout, mais n'a pas eu des institutions de qualité, n'a pas eu de gouvernance de qualité, et ceci a affecté négativement sa croissance, tandis que la Suisse n'a pas toutes les dotations que vous pouvez imaginer, mais la qualité de ses institutions a permis à la Suisse de se situer au niveau elle est aujourd'hui. Je termine par le rôle de l'État. Le rôle de l'État dans l'amélioration du climat des affaires. Ce qui crée la richesse sont des privés. Mais l'État a un rôle, il crée les conditions d'externalité positive. Mais en même temps, l'État doit améliorer les climats d'affaires qui permet de faire de la RDC la destination des investissements et des investisseurs. Et enfin, je termine donc par la problématique de la fiscalité. Il faut une fiscalité incitative, il faut un code d'investissement incitatif à comparer à la manière dont les fiscalités sont appliquées dans l'un ou l'autre pays d'Afrique ou d'ailleurs, que nous ayons une fiscalité qui soit plus attractive que dans les autres pays concurrents.
Merci.
Et ça va permettre donc et aux Congolais qui ont envie d'investir dans le pays et aux investisseurs de partout dans le monde qui voudraient bien choisir le lieu où destiner leurs investissements, de privilégier la République démocratique du Congo. Tout ceci considérant que la paix règne dans le pays.
Merci.
C'est une condition préalable.
Oui, on va revenir à vous. C'est très intéressant. Ça, c'est dans la définition vraiment de cette stratégie. Mais on pourra voir d'une manière concrète aujourd'hui qu'est-ce qui s'est fait dans notre pays pour arriver vraiment à atteindre cet objectif de l'indépendance économique par rapport à ces éléments que vous avez relevés. Nous avons les auditeurs sous notre standard. Maître Edmond nous appelle de Mbandaka. Maître Edmond, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour à Radio Capi, bonjour à tous les auditeurs, je salue également notre invité.
On vous écoute, Maître Edmond.
Merci, merci beaucoup, je salue l'invité, je l'ai bien suivi. Lorsqu'il était en train de développer les facteurs qui font que nous soyons assujettis, donc l'économie congolaise soit assujettie aux économies étrangères, moi je pense qu'en ce qui me concerne, d'abord que depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, nous avions, à l'époque, nous avions connu quand même certaines avancées, notamment par la zaïrianisation. Donc en 1970, on n'a pas vécu cette époque, mais selon l'histoire, nous avions eu des entreprises dans ces pays, nous avions de grandes unités de production dans ces pays, où même les étrangers venaient faire recours à nos unités de production. Mais je pense qu'à un certain moment, comme l'invité l'a dit, avec les guerres, avec la lutte politique, l'économie s'est dégringolée. Et puis, notre économie congolaise est détenue à 90% par les expatriés. Donc, c'est une économie extravertie. Ce qui fait que le gouvernement, parce qu'il y a une mauvaise gouvernance, les citoyens congolais, nos frères et sœurs qui veulent investir sont découragés. Et vous allez voir que par la mauvaise gouvernance, les autorités publiques encouragent plus les investissements étrangers. C'est-à-dire que ceux qui viennent de l'étranger, ceux qui viennent ramasser l'argent au Congo et qui investissent dans leur pays, et ce qui fait que notre économie puisse toujours être au lambeau, puisse toujours être au rabais. Et puis, je voulais plus me présenter sur des facteurs que l'invité a évoqués sur le climat des affaires et la fiscalité. Nous avions vu qu'en 1978, il y a eu création des entreprises publiques, et en 2008, avec les copyrights, on a constaté que ces entreprises étaient inefficaces et on les a transformées en sociétés commerciales. Il y a certaines qui ont été transformées, mais jusqu'alors, de 2008 à ce jour, ces entreprises-là ne produisent rien. Donc, la NAPI a été créée, la NAPI qui devrait inciter les citoyens, qui devrait avoir des mécanismes incitatifs pour pouvoir attirer les investisseurs pour investir au Congo, la NAPI également a échoué. Nous avions adhéré le 12 septembre 2012 à l'OADA. Il y a des normes, des mécanismes judiciaires et juridiques efficaces qui peuvent faire en sorte que l'économie soit quand même une économie comparable comme en Côte d'Ivoire et au Cameroun ailleurs. Mais jusqu'alors, je crois que de 2012 qu'à alors, les choses ne marchent pas. Voilà. Donc ici, vous allez constater que notre économie est extravertie. Et le gouvernement... Ce qu'il doit faire, le gouvernement doit imposer à tous ceux qui viennent, de pouvoir investir dans l'argent qui vient de notre, de la RDC, puisse être investi au pays et que l'initiative, parce que c'est constitutionnel, on doit encourager l'initiative privée. Et en encourageant l'initiative privée, il faut des mesures correctes comme ailleurs pour pouvoir supprimer certaines tracasseries fiscales et administratives, et ça va permettre au gouvernement, parce que le gouvernement doit collaborer avec le privé, et les privés qui peuvent mieux développer cette économie congolaise, ce sont les privés congolais. Voilà, donc c'est ce qui fait que de 1960 à ce jour, l'économie congolaise soit assujettie aux économies étrangères, et ce qui fait que les choses ne marchent pas. Nous sommes en train de s'embourber encore, nous sommes en train de s'enfoncer, les choses évoluent un peu vers 2006-2007, mais actuellement, avec le nouveau gouvernement, en tout cas, les choses ne marchent pas. Et le gouvernement doit faire en sorte que on puisse mieux inciter les privés congolais à pouvoir investir pour essayer un peu de gigueler ou de réveiller notre économie qui est vraiment en sommeil profond.
Merci beaucoup, Maître Edmond. Vous avez évoqué ce que disait notre invité tout à l'heure, mais vous avez dit qu'il y a certaines choses qui ont été faites, mais qui n'ont pas pu accompagner le pays à pouvoir se redresser, comme la création de la NAPI, comme les copyrights avec la transformation des entreprises du portefeuille de l'État, qui n'ont pas permis vraiment à ces entreprises de devenir plus performantes. La question de la fiscalité aussi, et vous souhaitez vraiment qu'on puisse encourager l'initiative privée locale. Et c'est comme ça qu'on peut quand même arriver à obtenir cette indépendance économique. Merci beaucoup, Maître Edmond. Jérémy, vous êtes à Lubumbashi. Merci de nous avoir rejoints dans ces débats. Bonjour, Jérémy.
Oui, bonjour, Monsieur Pierrot. Bonjour également à l'invité. Je pense que le sujet, il est pertinent. Et il est pertinent, il fait même vraiment la une, parce que ça fait plus d'une fois qu'on a eu à parler pour la stabilité de notre économie, qui jusque-là demeure toujours en berne. Alors moi, je me dis, 61 ans déjà... Comment expliquer ce paradoxe? Parce que nous avons toujours dit, notre pays n'a pas besoin de beaucoup de prières pour qu'elle arrive à stabiliser son économie. Le problème en RD Congo, il se pose un problème d'homme. Il se pose un problème de management sur tous les plans. Alors, là, je voudrais dire ceci, M. Pierrot. Il vous souviendra, si nous voulons comparer un peu, comment est-ce que les choses ont évolué jusqu'à ce jour, jusqu'à ce que notre économie se dégrade, c'est tout simplement parce que dans les temps, on s'attelait plus sur la sphère exportation. Mais regardez au jour d'aujourd'hui, nos regards restent focalisés sur l'économie extravertie. Et lorsque on importe, qu'est-ce qu'on amène au retour? C'est la devise étrangère. Et lorsqu'on amène la devise étrangère, certainement, notre monnaie locale perd sa valeur. Et lorsqu'elle perd de sa valeur, mais le pouvoir d'achat devient compliqué, le panier de la ménagère, donc ça veut dire, se détériore davantage. Et voilà, il faut la première des choses pour pouvoir remettre les choses sur l'orbite, pour que notre économie retrouve son indépendance. Il faut d'abord, en interne, qu'on puisse d'abord voir les entreprises qui renflouent la caisse de l'État. Hein, il faut participer à la mobilisation et donc ça dit pour maximiser les recettes. Parce que c'est en mobilisant les recettes et lorsqu'on maximise, on peut amener à ce que notre économie puisse être stabilisée. Le budget jusqu'alors en dents de scie. Quand vous regardez les petits pays, l'Angola, regardez un peu les budgets, Kalou, les Angolais. Mais regardez, qu'est-ce qui nous manque ici? Dieu nous a tout donné et il manque seulement quelqu'un pour appuyer sur un bouton et tout se déclenche et notre économie.
Alors, merci beaucoup, Jérémy. Jérémy, vous avez dit, il y a une question d'abord d'homme, cela veut dire, c'est un problème d'expertise et de capacité. Et vous avez dit qu'il y a un problème de management. Voilà, ce sont les éléments que vous avez.
Je voudrais ajouter un petit quelque chose.
Ah, rapidement, oui, en un mot.
Oui, c'est ce que je voudrais dire. Parce que vous savez qu'il y a aussi, il faut réduire sensiblement les exonérations. Il y en a de trop. Quelqu'un, une personne à elle seule, avec 90 exonérations. Mais vous voulez que le budget, l'économie soit stable. Elle va se stabiliser. Comment?
Quoi? Alors qu'il y a, beaucoup de gens échappent, beaucoup de gens font des activités tout en échappant au trésor public. Merci beaucoup. Et vous avez évoqué cette question de la faiblesse de notre monnaie parce que les exportations ne ramènent que des devises étrangères et qui déprécient la monnaie. Merci beaucoup, Jérémy de Lubumbashi. Benjamin, vous êtes à Kananga, au Kasaï Central. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Monsieur Pierrot et la Mégie, bonjour à l'invité, bonjour à tous les amis auditeurs de la Radio Capi.
On vous écoute Benjamin.
Merci beaucoup cher Pierrot, il est vraiment intéressant de pouvoir évaluer l'indépendance financière de la République démocratique du Congo, 61 ans après l'indépendance. Monsieur Pierrot, vraiment c'est très grave parce que la dépendance de la République démocratique du Congo vis-à-vis de l'extérieur traduit aujourd'hui une mauvaise gestion du pays presque dans tous les secteurs, M. Pierrot. Il n'y a seulement qu'au Congo qu'on peut voir un pays avec des ressources naturelles scandaleuses, mais avec une population extrêmement pauvre. Moi, je suis en train de me demander aujourd'hui, avec 52 richesses que nous disposons, qu'est-ce qu'on en fait avec? Par contre, toutes ces richesses sont exploitées par les expatriés qui, en retour, la République démocratique du Congo ne gagne absolument rien. Moi, je pense que si on continue avec une telle gestion au pays, M. Pierrot, rassurez-vous que des siècles et des siècles, la République démocratique du Congo continuera toujours à dépendre. Et moi, je voulais proposer un peu quelques mesures. Si réellement nos autorités veulent que la RDC puisse assurer son indépendance financière, d'abord, il faut que le gouvernement puisse investir dans les secteurs primaires. Là, nous voyons par exemple l'élevage, l'agriculture, etc. Parce qu'aujourd'hui, M. Pierrot, vous voyez, en RDC, l'agriculture est un peu négligée. Nous avons des sols arables ici. Mais qu'est-ce qu'on en fait avec? Pratiquement rien. Donc, il faut que le gouvernement puisse donner un œil vigilant sur ces points-là. Ensuite, M. Pierrot, il faut qu'on puisse accélérer avec la mobilisation de recettes via les différentes régies financières. Vraiment, ça, c'est urgent. Encore, Monsieur Pierrot, il faut qu'on puisse mettre toutes les voies et moyens en place pour qu'on puisse lutter contre les antivaleurs qui gangrènent la République démocratique du Congo aujourd'hui. Si aujourd'hui, tout ce qui est mobilisé comme telle ou telle recette, si vous voyez bien, c'est délocaliser du trésor public parce que nous avons vraiment un problème de transparence. Les gens en République démocratique du Congo, surtout les autorités publiques, considèrent leur caisse privée et la caisse de l'État. Et je pense que si on lutte contre la corruption, vous voyez même, selon les statistiques, la place qu'occupe la RDC aujourd'hui en matière de lutte contre la corruption, la République démocratique du Congo est classée dans la première position dans le pays qui sont beaucoup plus corrompus au monde. Donc le gouvernement actuel doit vraiment mettre toutes les voies et moyens possibles en marche pour qu'on puisse lutter contre les bandes de malfaiteurs, les bandes, les clowns en cravate qui détournent le trésor public. Il faut aussi, M. Pierrot, améliorer la gouvernance interne, faire des réformes fiscales. Je pense que si réellement nos autorités nous suivent, la Radio Capi, c'est une grande chaîne. Si réellement ils nous suivent et si réellement ils ont la volonté d'assurer l'indépendance de la RDC vis-à-vis de l'extérieur, En tout cas, Monsieur Pierrot, merci. Une année, deux ans après, on peut parler notre langage.
Merci beaucoup, Benjamin. Vous l'avez dit, hein, si les autorités nous entendent. Oui, voilà, on a une autorité dans cette émission. C'est Monsieur Jean-Lucien Boussa qui est ministre du commerce extérieur. Vous avez proposé plein de choses, la mobilisation des recettes, la lutte contre la corruption, l'amélioration de la gouvernance interne, les réformes fiscales. Il y a notre ami Jérémy aussi, il revenait tout à l'heure sur cette question des multiples exonérations. Alors, multiples exonérations. Alors, voilà. Et nous avons Peter Kieta Chikapa avant d'accorder la parole à notre invité. Peter, merci de nous avoir rejoint. Bonjour.
Bonjour, monsieur JR. Bonjour à tous les étés de la radio Capi.
On vous écoute.
Merci, monsieur JR, pour la parole. Je pense qu'aujourd'hui, 61 ans d'indépendance, la RDC fait face à l'indépendance financière, comme vous l'avez souligné, suite aux ressources extérieures qui représentent le 50% de son budget. Monsieur JR, je voudrais un peu argumenter en disant que parmi les sources de financement d'une entité ou d'un pays, nous avons les financements internes, nous avons aussi les financements externes. En fait, monsieur JR, aucun pays à travers le monde ne peut se développer qu'à partir seulement des sources de financement externes. Aujourd'hui, nous avons constaté que les dirigeants congolais donnent plus de l'avantage aux ressources externes alors que les sources de financement internes ne sont pas beaucoup plus envisagées. Mm-hmm. Quand on parle des sources internes dont je faisais allusion, monsieur JR, nous voyons nécessairement d'abord la production locale interne du pays. Donc, parmi les sources propres que nous avions l'habitude d'enseigner même aux enfants, nous avons d'abord les ressources propres, nous avons l'autofinancement et nous avons aussi les crédits bail, qui sont des sources internes pour un pays. Et également, quand aujourd'hui le pays fait face aux sources externes, nous avons les emprunts, qui sont des sources externes, et nous avons également les sources externes, nous avons aussi les dettes. Et puis les emprunts, comme je disais, les emprunts ont aussi les dettes. Aujourd'hui, si la RDC représente pour dans son 50% du budget qui sont des sources externes, et cela suppose que le pays fait face aux dettes auxquelles ces dettes-là pourront mettre à mal le fonctionnement normal des institutions. Mm-hmm. Voire même, aux jours à venir, le pays sera considéré comme un pays endetté par rapport aux autres États
Alors,
du monde.
Alors, rappelons qu'on était très endetté à un moment, on est sorti du programme qu'on appelait PPTE, les pays pauvres très endettés. Mais alors, Peter, si on vous suit très bien, votre souci, c'est de pouvoir plus investir dans la production interne pour soutenir la production interne. Cela peut nous aider à faire cette balance et obtenir cette indépendance économique. 081-890-49-69, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct et nous allons accorder la parole à notre invité pour réagir d'un moment à l'autre.
Parole aux auditeurs.
Alors, on revient à vous, monsieur Jean-Lucien Boussa. En suivant les auditeurs, hein, cela veut dire les soucis aujourd'hui, c'est d'avoir des mesures concrètes. Vous êtes ministre du commerce extérieur. Et ici, c'est de savoir qu'est-ce que nous devons faire maintenant, concrètement. Quelles sont les mesures qu'on peut prendre aujourd'hui, qu'on peut prendre demain, pour que nous puissions arriver vraiment à atteindre ces objectifs qui ont été définis et les soucis des uns et des autres.
Oui, je voudrais, avant de répondre à cette question, donner deux chiffres qui doivent être illustratifs par rapport à notre situation des 60 à ces jours. Je voudrais vous dire aux auditeurs que le PIB par habitant, la mesure de la richesse du pays par habitant, en 1960, nous avons 1 039 $ par habitant. Mmh. En 2019, nous sommes tombés à 423 640 $ par habitant. Ce chiffre-là doit être présent dans nos esprits pour nous permettre de décliner nos arguments et nos politiques. Voilà. Donc, c'est une économie qui a beaucoup perdu et, comme j'ai indiqué tout à l'heure, dont l'économie s'est rétrécie. Maintenant, quelles sont les mesures concrètes? Je voudrais d'abord rappeler la question relative à la vision et à la détermination politique, celle liée à la qualité des institutions ainsi que la gouvernance. Aujourd'hui, nous avons la chance, je dirais même l'avantage, d'avoir un président de la République qui a une vision et une détermination très claire par rapport à l'inversion de la situation. Le Congo doit internaliser ses politiques économiques. le Congo doit asseoir ses politiques, sinon son développement économique sur la production intérieure. Je rappelle, Peter, que le gouvernement de la République, depuis qu'il est là, travaille sur les projets agricoles, travaille sur, pris des mesures, je veux dire, le gouvernement a pris des mesures pour le développement du secteur agricole, les investissements dans le secteur agricole, pour répondre aux questions que nous posent nos citoyens. Manger maïs, riz, etc., ça se produit dans ce pays. Il faut créer les conditions pour qu'on en produise davantage. Le secteur de pêche et de l'élevage est considéré comme un secteur prioritaire pour le gouvernement de la République. Et là-dessus, le gouvernement, très bientôt, je crois, au cours de la semaine qui vient ici, le ministre de l'Industrie va nous présenter le plan directeur de l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Mmh. En spécialisant chaque province par rapport à ce qu'elle doit être capable de pouvoir fournir en termes de capacité industrielle. Mmh. Pas plus tard que le 11 de ces mois, j'ai soumis au Conseil des ministres, et le gouvernement l'a approuvé, en mesure gouvernementale pour relancer l'agriculture, pour relancer l'économie en général, et pour réduire notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Les mesures sont là, elles sont en train d'être mises en œuvre. Mais c'est des questions d'ordre structurel. Le gouvernement de la République, conduit par le Premier ministre Jean-Michel, implémentant la vision du président de la République, travaille d'arrache-pied pour que les réponses structurelles soient données, je dis les réponses dans la durée soient données au problème. Il faut arrêter de gérer que les urgences. Dans ce pays, on a passé des décennies à gérer que des urgences. On a oublié les questions importantes. Et donc, le gouvernement travaille là-dessus. Je voudrais rassurer l'opinion publique sur ces questions. Et les mesures concrètes sont prises au cours du Conseil des ministres qui va venir. Vous allez suivre la politique, la présentation du plan directeur d'industrialisation du pays. Mmh. Maintenant,
Allez-y.
Oui. Alors, maintenant, des questions ont été posées par les auditeurs. Transformation des entreprises, qu'est-ce qu'on en a fait? L'écho des investissements par la NAPI. Je veux dire, il faut investir dans le pays, mais je l'ai indiqué tout à l'heure. Au cours de la réunion du Conseil des ministres passé, il a été décidé de pouvoir révisiter le code des investissements pour le mettre au niveau des compétitivités, en tout cas pour l'harmoniser au code d'investissement des pays voisins et le rendre plus attractif. Ça, c'est déjà décidé et les travaux sont en train d'être faits sous le leadership du ministre du Plan. Mmh. Encourager les secteurs privés, mais c'est ce que le gouvernement est en train de faire tous les jours. Pas plus tard qu'hier, avant-hier, nous avons signé un accord avec le Rwanda sur cette problématique de promotion d'investissement et de protection d'investissement. C'est pour les secteurs privés qu'on travaille. Monsieur Jérémy aussi a parlé du problème d'hommes. Mais tout au début de cette émission, j'ai indiqué la problématique de la vision du leadership au sommet de l'État. On en a aujourd'hui une. On a indiqué la problématique de la détermination des élites. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement des élites qui sont prêts à affronter ces différents défis. Mais aussi, on ne s'arrête pas au niveau des élites. Il y a au niveau des entités microéconomiques aussi, où ces politiques doivent s'appliquer. Tout le monde est revenu sur la question de la gouvernance. Mais vous savez, le chef de l'État a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. L'inspection générale des finances est en train de faire un travail exceptionnel qui permet d'améliorer la qualité de la gouvernance. Et les sanctions sont en train d'être prises. Donc, et beaucoup ont insisté aussi sur la mobilisation des recettes. Oui, mais un budget, le niveau d'un budget, c'est aussi le niveau du produit intérieur du pays. Lorsque la richesse nationale a baissé, le budget ne va que baisser. Maintenant, il faut travailler sur la production, et c'est ce que nous sommes en train de dire, et c'est ce que le gouvernement est en train de faire, pour élargir l'assiette fiscale en élargissant la base économique. Et ça, c'est parce que à travers la production intérieure, la diversification des activités à l'intérieur du pays, des incitations en faveur du secteur privé, mobilisation des recettes à l'intérieur, c'est vrai. Toutes choses étant égales par ailleurs, même dans la situation actuelle, notre budget peut être au-delà de celui que nous avons aujourd'hui.
Alors, mais il y a
là-dessus, des mesures sont prises et les travaux sont en train d'être faits. Vous avez remarqué que depuis 3 mois. Je commence par le mois de mai, j'ai fait en descendant, mois de mai, avril et mars, les recettes publiques
ont augmenté sérieusement, bien que nous soyons dans le contexte de la COVID-19. Et lorsqu'on compare les résultats du mois de mars, avril et mai 2021, par rapport au mois de mars, avril 2020, on va dire que c'est la COVID, mais par rapport au mois de mars, avril, mai 2019, les recettes de cette année sont de loin supérieures aux recettes des années antérieures.
Voilà.
Ça veut dire qu'un travail est en train d'être fait en termes de gouvernance, en termes de volonté du gouvernement,
voilà,
mobiliser les recettes publiques.
Monsieur Jean-Luc Bousset, il y a deux préoccupations. Il y a notre ami Jérémy qui est revenu sur la question de l'exonération. Il a estimé qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui fonctionnent en mode exonération avec autant. Mais il y a aussi la question de l'accès aux capitaux. Bien sûr, on peut encourager la production interne. Mais combien des Congolais ont-ils aujourd'hui la possibilité d'accéder à un crédit bancaire, d'avoir un projet qui puisse recevoir des capitaux, qui peuvent investir aujourd'hui et créer de la richesse?
Oui, tout à fait d'accord. Je suis d'accord avec lui sur le sujet. Notre marché financier n'est pas très, très attractif pour les initiatives privées. Vous avez des taux d'intérêt très élevés pour les investisseurs. Mais je pense que là-dessus, les travaux sont en train d'être faits. La Banque centrale, au cours de la semaine passée, a dit baisser son taux directeur. C'est-à-dire qu'il y a un effort qui s'est fait dans les... qui permet de donner au plus grand nombre l'accès au crédit, mais les défis restent encore entiers et on doit y travailler. Mais entre-temps, au niveau des petites et moyennes entreprises, vous savez qu'il y a un fonds destiné de 100 millions de dollars qui est destiné à financer les petites et moyennes entreprises au niveau du ministère des PME. Ça existe. Donc le gouvernement travaille, les problèmes sont... Mais le gouvernement a su identifier les priorités et a compris que le développement du pays ne peut être basé que par la production intérieure, aussi bien des petites et moyennes entreprises que des grandes entreprises. Maintenant, est-ce que j'ai oublié une question que vous...
Non, il y a notre ami qui a parlé de la question des exonérations. On estime qu'il y a
Les exonérations. Mais d'abord, le rôle économique de l'État. Il faut revenir sur le rôle économique de l'État. Le rôle économique de l'État, c'est à la fois la régulation de l'économie, c'est en même temps l'État comme agent économique qui intervient dans la sphère économique par la construction des infrastructures routières, énergétiques, etc., etc. Mais aussi le rôle de l'État. Cette exonération doit se faire comme des politiques d'incitation aux investissements. Et c'est ça le code des investissements que nous avons. Simplement le problème, ce que beaucoup de bénéficiaires des cours d'investissement détournent les bénéfices qu'ils ont en utilisant ces exonérations pour des business privés. Un travail a été demandé par le Premier ministre, au ministre des Finances et autres ministres pour faire l'évaluation de cela. Mais aussi, beaucoup des ONG qui ont les bénéfices d'exonération sont plutôt des paravents de certains opérateurs économiques mafieux. Excusez-moi de ne pas citer les églises sur la liste. Les opérateurs économiques, certains opérateurs économiques véreux, se servent des ONG, que ce soit dans le domaine des églises d'ailleurs ou des humanitaires, pour prendre des exonérations, importer de marchandises par les ONG et les transmettre au privé. Donc il y a tout un problème, et cette question a été déjà posée par le Premier ministre, qui a donné des instructions très claires il y a deux semaines. Le travail est en train d'être fait pour nettoyer les exonérations qui n'ont rien à voir avec le développement économique et les remettre au strict respect de la volonté du législateur. En même temps, et j'ai indiqué tout à l'heure, qu'au cours de la réunion du Conseil des ministres du 11 juin 2021, parmi la panoplie des décisions qui ont été prises, il a été question de pouvoir révisiter le code des investissements
voilà,
pour le rendre plus attractif.
Je sais que vous avez d'autres charges, mais en attendant, il y a quelqu'un qui nous a rejoint tout à l'heure, Monsieur Alkitenge. Merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour, cher ami.
Nous parlons de 61 ans de l'indépendance. Comment la RDC peut-elle vraiment obtenir son indépendance économique? Vous avez suivi le ministre du Commerce extérieur, Monsieur Jean-Lucien Boussa, avec les éléments, plusieurs défis qui restent à relever. Pour vous, quelles sont les grandes lignes aujourd'hui de ce que la RDC devrait faire pour atteindre vraiment son indépendance économique 61 ans après?
Merci beaucoup. Je vous remercie de m'associer à ce débat et j'en profite pour saluer Son Excellence, Monsieur le Ministre du Commerce extérieur, qui fait un travail remarquable. Je voudrais juste ici dire quelque chose de très simple, c'est que La première erreur et la plus grande faute que nous avons commise, c'est de croire au discours politique dans le passé qui tendait à faire penser aux gens que l'homme politique était au cœur de la création de richesses. On a vu en 60 ans que c'était totalement faux. Mm-hmm. C'était des promesses politiques. En fait, mon point de vue, c'est que le leadership du pays ne doit pas être bloqué entre les mains d'un seul individu ou entre les mains d'une seule institution. C'était la plus grande faute des 60 dernières années. Nous devons avoir un leadership à plusieurs niveaux. Le président de la République, le gouvernement et les institutions nationales, le gouverneur de province, le bourgmestre de la commune, le chef d'entité territoriale décentralisée. C'est en créant des richesses à tous ces niveaux que nous pouvons arriver à faire quelque chose. Mmh. La deuxième des choses, c'est la paix. On ne peut pas se promouvoir, on ne peut pas progresser de manière durable si nous ne donnons pas une attention particulière à la question de la paix. La troisième des choses parmi les préalables, c'est le conflit d'intérêts des hommes politiques que l'on retrouve tout le temps en train de truander les règles de jeu parce qu'ils doivent arbitrer entre leurs intérêts personnels mmh. et les intérêts de l'État. Si les trois préalables sont plus ou moins partagés, je voudrais, moi, donner mon point de vue sur ce qu'il faut effectivement faire pour avoir une indépendance économique. La première des choses, et c'est la plus importante, c'est se réconcilier avec le rural. Le rural constitue 80% de notre population, et très malheureusement, le rural est mis complètement à côté dans la création de la richesse, mmh. bien entendu, parce qu'en contrepartie, il n'aura pas les services publics. Il faut investir l'argent de l'État dans le milieu rural et engendrer l'exode urbain. Il faut arriver à sédentariser les moyens financiers par un développement économique inclusif et une attractivité de l'intelligence humaine dans les milieux ruraux. Quand les meilleurs d'entre nous, quand nos enfants trouveront l'intérêt d'aller dans le milieu rural, parce que l'État lui-même a compris l'intérêt de s'investir dans le milieu rural, mmh. nous aurons ce qu'on appelle l'entrepreneuriat rural. Ce sera un statut véritable. Nous aurons en ce moment-là une fiscalité adaptée à l'entrepreneuriat rural. Le ministre parlait tout à l'heure de notre fiscalité, mais vous savez, notre pacte fiscal est une superposition des textes qui commence à l'époque coloniale, qui jusqu'à aujourd'hui se tourne le dos avec la réalité du monde. Il est important qu'on rase tout notre système fiscal pour qu'on reconstruise un système fiscal d'avenir qui tient compte de nos réalités et qui met en priorité le secteur rural. Deuxième chose, en milieu urbain, on ne peut pas se permettre d'avoir plus de 60% de l'activité économique de tout un pays dans le secteur informel. Et dans le secteur urbain, dans une ville comme Kinshasa, 98% de l'activité économique est entre les mains des activités des opérateurs économiques informels. On ne peut pas continuer comme ça. Il est important que l'État congolais mette en place un dispositif d'absorption de toutes ces activités réelles, les reconnaître, leur donner un statut et les mettre dans une situation d'inclusion financière et économique. Le troisième point pour moi, il me semble tout aussi important que ça, c'est promouvoir la consommation des produits congolais, valoriser les métiers et la production congolaise. Un pays qui se nourrit de la nourriture produite dans d'autres pays est un pays qui paye des salaires et le développement dans ces pays-là. Ça, c'est la plus grosse bêtise que nous pouvons être en train de faire collectivement. On l'a fait pendant 60 ans, de suite d'un certain nombre de mensonges, et il est important qu'on se réveille sur cette question. Le dernier point que je voudrais être en mesure de mettre en place ici, il est double. C'est que notre pays a une vocation minière. Il faut savoir que les mines s'épuisent. Donc, il faut en avoir un plan de développement. Et mon point de vue est que nous devrions aller sur les produits à valeur ajoutée miniers. C'est très important. Jusqu'aujourd'hui, nous vendons des matières premières. Ce n'est pas très raisonnable. Il faut savoir que nous avons une histoire à raconter aux générations à venir. Mais pour ça, je pense que la plus grosse faiblesse que nous avons eue, c'est le levier énergétique. On n'avait pas assez, en tout cas pas développé, pour être en mesure d'alimenter une industrie, ambition industrielle. Le ministre parlait tout à l'heure d'un plan d'industrialisation par province. Il faut faire précéder de ce plan d'industrialisation par province par un plan d'énergie par province. Mmh. Aujourd'hui, au regard de la classe énergétique que nous avons dans le pays et au regard de la libéralisation du secteur de l'énergie et de l'électricité, nous avons la possibilité d'avoir un sens logique. Mais tout ça, ça ne fonctionne que lorsque vous avez un plan stratégique de développement. Et il est important que le nouveau ministre des Plans se rende compte qu'on n'arbitre pas un pays dans les 5 ans, on arbitre un pays dans les 30-50 ans, quitte à faire un rétropédalage pour avoir 30 ans, 20 ans, 10 ans, et puis les 5 ans d'un mandat. Si tout ceci est fait, Merci. Nous sommes là en possibilité de nous mettre vers un chemin
qui va nous amener vers une indépendance économique et nous la faut le plus rapidement possible.
Merci. Merci beaucoup, Al-Kitenge. C'est très bien. On aura la réaction du ministre tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens vraiment sur notre standard, tellement que le débat il est intéressant. Mais je rappelle encore à nos auditeurs et nos internautes que nous pouvons continuer à débattre sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Franck, merci de nous avoir rejoints dans ces débats. Bonjour, Franck.
Bonjour, Lotani Pierrot. Bonjour, l'invité. Bonjour aux amis avec qui nous allons nous échanger sur vos ondes.
On vous écoute, Franck.
Oui, merci beaucoup pour la parole. Ma modeste contribution porte sur trois petits volets. Au premier, je vais tenter de faire un bref rappel sur la conception terminologique du mot indépendance. Puis, je passerai par une auto-intervention. Enfin, je vais discuter par des sujets. Oui, nous savons tous que notre pays est devenu indépendant depuis le 30 juin 1960. Puis, acquérir une indépendance, en guise de définition, c'est chercher à s'affranchir d'un pouvoir de tutelle ou de soumission pour jouir de sa pleine liberté en disposant de toutes les marges de manœuvre pour continuer à vivre sans se soumettre encore à qui que ce soit. Et par rapport à cet état de fait, par rapport à notre situation paradigmatique en République démocratique du Congo, il y a lieu de nous demander si la disconception de l'indépendance est ainsi comprise par tout le monde et surtout aussi de la part de ceux à qui certaines parcelles d'autorité et de responsabilité étatique officielle sont confiées à certains niveaux décisionnels pour la vie interne de la nation. Parce que 61 ans après, nous devons en principe nous poser des questions ouvertes sans complaisance sur l'essence de notre responsabilité citoyenne, sur nos aptitudes et aussi attitudes intégrales pour nous prendre convenablement en charge sans nous trouver des alibis ici et là. Et en guise de suggestions comme la thématique d'aujourd'hui consiste à une question, ce que nous devons faire pour gagner notre vraie indépendance financière, c'est avant tout de faire des remises en question sans complaisance. C'est arriver à faire des évaluations très objectives, des autopsies intégrales sur les vraies causes de ce qui nous bloque à aller de l'avant. Et personnellement, depuis toujours, je trouve que la première responsabilité nous incombe tous, nos citoyens congolais, car nous avons failli en beaucoup de choses au niveau de la vision de la gestion de la chose publique, au niveau de la vision de la vraie formation et de l'éducation, au niveau de la manière de faire fonctionner les institutions dans son ensemble, les services de l'État. Et c'est comme on le dit, c'est un problème d'homme. Donc nous disons indépendants, mais à travers notre manière de vivre, de faire, de gouverner, on ne sent pas vraiment cette indépendance-là. Alors moi personnellement, jusqu'à présent, je me demande, est-ce que nos dirigeants comprennent l'essence de l'indépendance que nous avons acquise en 1960 ou c'est seulement une indépendance verbale, mais en réalité, quand nous vivons, c'est plus la dépendance. Parce que pour les soins médicaux, les mêmes dirigeants politiques qui se disent indépendants vont ailleurs. Pour faire étudier leurs enfants, les mêmes autorités qui nous parlent de l'indépendance envoient leurs enfants ailleurs. Pour les investissements, ils vont investir ailleurs. Leur compte, ils détournent au pays pour aller investir ailleurs. Finalement, même pour les budgets. Et quelque part, je crois, nous devons avoir honte pour parler de l'indépendance.
Alors, Franck, si on écoute d'une manière globale, Franck, c'est-à-dire que la question doit être au niveau de la responsabilité, la question doit être au niveau de la gouvernance. Parce que là, on est bousculé vraiment par les temps, on doit permettre au ministre de pouvoir conclure et pouvoir aussi le libérer. On est presque à la fin de l'émission. Professeur Mukundi, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes élu de Nyonzou dans le Tanganyika. Bonjour et bienvenue dans Parole aux Auditeurs.
Merci beaucoup, monsieur.
Alors, on n'a pas vraiment beaucoup de temps, mais la question tourne autour de l'indépendance économique. Vous êtes un élu. Alors, en grande ligne aujourd'hui, comment la RDC peut-elle gagner son indépendance économique d'une manière assez brève et concise, professeur?
Oui, très clairement, je ne cesse de le dire, on ne peut pas faire l'économie sans un support financier. Et le support financier, c'est le système de financement de l'économie. Vous pouvez tout privilégier comme programme, comme projet de diversification de l'économie. Mm-hmm. À partir du moment où vous dépendez sur le plan financier des autres, c'est comme un enfant ou un foyer qui a tout, mais qui attend que le voisin puisse lui apporter la monnaie pour faire le marché. Voilà, ça c'est le pilier le plus important, parce que l'économie a deux phases. Vous avez la phase de la production, de la distribution, de la consommation. Cette phase-là est appuyée par le financement. Celui qui n'a pas assez de moyens, il peut recourir à l'emprunt pour terminer son projet et booster l'économie. Celui qui a assez de moyens, il peut investir dans le domaine financier en faisant l'épargne pour permettre à ce que les institutions financières ou le marché puissent accorder des crédits ou les prêts à ceux qui en ont besoin. Ça, c'est vraiment l'élément fondamental sur le plan économique. Mais en dehors du plan économique, il y a le plan extra-économique. Je crois que tout à l'heure, je viens de suivre, c'est un problème de la gouvernance. Dans la gouvernance, dans la gestion de la cité, il y a ce trio-là, la politique, le droit et l'économie. Malheureusement, la cadette, l'économie, c'est la plus précieuse. On ne peut pas faire l'économie si on n'est pas organisé sur le plan juridique, si on n'est pas organisé sur le plan politique. Donc, si on ne respecte pas ces trios-là, voilà. En tout cas, on ne peut pas avancer. Merci. Et enfin, accordez-moi, je place un dernier mot. Okay. C'est sur la mentalité. La mentalité, il y a deux choses importantes. La valeur du travail. Comment on instruit aux gens la valeur du travail? D'abord, le gouvernement lui-même. Pour le gouvernement, le travail, c'est l'accessoire. Voilà pourquoi le gouvernement rémunère très mal ses fonctionnaires. Parce que pour le gouvernement, le travail, c'est accessoire. Pour la population, le travail, ça devient un corvée. Tout simplement parce que, on travaille, mais on est moins rémunéré. Et enfin, pour les entreprises capitalistes, le travail, c'est un moyen d'exploiter le plus petit. Et donc, la valeur travail, mon frère, c'est un élément important.
Merci beaucoup, professeur Dommage. Vraiment, le débat, il est intéressant. On pourra y revenir rapidement. Nous revenons à notre invité, le ministre Jean-Lucien Boussa. On a suivi les uns et les autres. Al Kitenga parlait. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir pour conclure vraiment cet échange et quelle note d'espoir on peut garder pour l'avenir aussi rapidement?
Il est possible d'échanger des paradigmes. Il est possible d'échanger la structure de notre économie, parce que nous avons des hommes et des femmes, 100 millions d'habitants. C'est des intelligences, c'est de la main d'œuvre nécessaire pour développer une économie. Mmh. Il est donc possible. On a besoin d'un leadership visionnaire et déterminé. Aujourd'hui, nous avons un leadership visionnaire et déterminé. On a besoin des institutions de qualité au niveau national, au niveau provincial, au niveau local. Mmh. Al Kitenga l'a indiqué en ces termes. On doit faire de la bonne gouvernance un système. Et donc ça aussi, ça a été indiqué. Mmh. Nous avons des politiques économiques qui visent le développement du pays. Et ça, c'est clair.
Merci.
Le développement de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, du tourisme, merci, l'industrialisation du pays sont des facteurs importants. Maintenant, on peut chercher des ressources, merci, à l'interne beaucoup, comme à l'externe,
merci,
pour pouvoir investir dans le pays et développer notre système économique,
merci,
de sorte
beaucoup
que 62 ans, 61 après l'indépendance, soit considéré comme le passé, mais que le futur soit radieux.
Merci beaucoup, Monsieur Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce extérieur. Merci d'avoir été avec nous dans cette émission. Et merci aussi à Sylvain Matundu qui était à la mise en nom de Jocelyne Mukendi à la réalisation. On se retrouve demain pour un autre numéro. Mais cette émission est sur www.radiocapi.net. Au revoir.